Si, pour enregistrer après, c'est mieux.
Ah, ouais. Je renouvelle mes voeux alors. Tous mes meilleurs voeux. Bienvenue à cette réunion d'information. On va parler des entreprises en difficulté. On va parler du CIP, des centres d'information et de prévention des entreprises en difficulté. Le CIP qui a été lancé officiellement à Béziers il y a peu de temps. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le président du tribunal de commerce, M. Éric Germis. Merci de votre présence. Également Marco Faure, expert comptable, commissaire aux comptes à Béziers et vice-président du tribunal de commerce de Béziers, ainsi qu'Éric Gillis, premier vice-président de l'ordre des experts comptables d'Occitanie. Nous aurons également l'occasion de faire participer Delphine Vigneault, Delphine référente CIP Héro. À Béziers, ça fait un petit moment qu'on avait cette ambition de lancer ce CIP, le président du tribunal de commerce le rappellera. C'est chose faite, hein, et je pense qu'il est important en 2024 que nous soyons tous au fait des procédures d'anticipation et d'identification peut-être chez nos clients de toutes les procédures, enfin en tous les cas des petits signaux qui nous permettraient de lancer une procédure pour accompagner nos clients et surtout identifier avant qu'on arrive à la fin. Voilà. Donc je vais leur laisser la parole et puis nous aurons l'occasion d'échanger. Merci encore de votre présence.
Bonsoir à toutes et à tous, merci. Tous mes voeux également, je vous souhaite donc une très belle année 2024 et bien sûr beaucoup de santé et d'énergie pour pouvoir passer cette belle année. Donc concernant le tribunal de commerce de Béziers et la prévention, le constat que j'ai fait, puisque ça fait un an que j'ai pris la présidence du tribunal de commerce, et 14 ans auparavant, donc j'ai entendu parler de plein de choses, mais en étant président, on rentre un peu plus dans le sujet, et j'ai fait un certain nombre de constats. Je parlerai tout à l'heure, je reviendrai sur, pour que vous ayez un petit bilan de l'activité, de ce qu'est-ce que ça représente le tribunal de commerce de Béziers, ce sera un moment de petit partage de quelques chiffres, pour que vous puissiez mesurer les flux que nous avons à traiter avec Marc et l'équipe. Mais globalement, quand on est au tribunal de commerce, on constate, on fait un premier constat, c'est que c'est bien normal, les entreprises ont du mal à venir nous voir. Aller au tribunal, c'est un peu aller chercher un coup de bâton, d'une certaine façon, ou se dire on va en prendre un coup. Et donc la démarche spontanée est difficile. Ces entreprises, pour on va dire celles qui sont majoritairement concernées par les procédures collectives, puisque c'est environ un peu plus de 80%, sont des entreprises qui ont, en tous les cas, moins de 10 salariés. Donc, ce n'est pas des grosses entreprises, c'est des petites entreprises. Et donc, on est plutôt sur une relation très humaine, le chef d'entreprise, et qui a du mal. Il a du mal à deux titres. D'abord, aller demander de l'aide au tribunal de commerce, c'est aussi reconnaître à un moment donné qu'on a failli. Et dans notre pays, faillir, c'est pas bien. C'est pas dans notre culture. On est un peu honteux, on se cache, on n'ose pas le dire ou le faire savoir, on n'ose pas demander de l'aide. Et généralement, quand c'est comme ça, eh bien, on rentre dans une mauvaise spirale qui nous amène là où il ne faut pas aller. Donc ce constat, on l'a fait, et Marc, qui est spécialisé sur les procédures collectives chez nous, me confirmera, les entreprises, quand elles viennent au tribunal de commerce, je ne vais pas dire 100%, mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. C'est fini. On ne peut plus rien faire, si ce n'est d'appliquer la loi et d'appliquer les procédures qui permettent de les clôturer. Donc, c'est bien dommage, parce que c'est tout le monde, tous autour de ici présents et les autres, hein, qui payons. Quand on liquide une entreprise et qu'on abandonne le passif, eh bien, c'est, d'une certaine façon, ça sort de notre poche. Et donc, il faut qu'on y mette un terme et c'est un vœu pieux, c'est d'arriver à limiter un petit peu les dégâts, et il y a des possibilités, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, on vous redira les chiffres, mais je vais les annoncer là, malgré tout, en procédure, c'est les chiffres nationaux de 2023, 80, quand on parle de procédure collective, 5% des entreprises trouvent une issue favorable. Quand on parle de prévention, c'est 75% des entreprises qui trouvent une issue. On dit, alors c'est évident, faisons de la prévention. Mais pour autant, pour en faire, il faut qu'on ait des entreprises qui viennent nous voir. Donc, il y a deux leviers là-dessus. D'abord, il y a le levier du tribunal de commerce, c'est-à-dire comment il peut initier lui-même de la prévention. Et on le fait. C'est-à-dire que à Béziers, je suis confronté tous les lundis à des demandes d'injonction de payer. Sur la base de ces injonctions de payer, en fonction des indicateurs de prévention que nous avons, qui sont automatisés dans le système, si l'entreprise a plusieurs IP la même année, si elle a des comptes, pour le coup, qui apparaissent avec notamment des fonds propres ou négatifs ou qui ont été réduits d'une année sur l'autre de plus de la moitié, des dettes complémentaires que je peux aller demander auprès de l'URSSAF ou la DGFiP. Donc tout ça, nous déclenche chez nous une action de prévention. On va convoquer les entreprises auprès des juges de la prévention pour essayer de voir ce qu'il en est, essayer de trouver des solutions d'accompagnement. On a fait 107 dossiers en prévention qu'on a initiés l'année dernière, et sur ces 107, on a 67 entreprises qui sont suivies par les juges de la prévention. Donc ça, c'est une action. L'autre action, c'est les entreprises rares qui viennent spontanément nous demander d'aide. Il y en a de temps en temps, mais je dis bien de temps en temps. Et puis, il y a toutes celles qu'il faut qu'on arrive, et bien souvent, celles-ci, il est déjà trop tard aussi. Et il faut donc qu'on arrive à aller beaucoup plus haut dans l'information pour interpeller les clients et leur dire « Attention, tu as une difficulté, tu n'as pas pu payer un loyer, tu ne peux pas payer ton fournisseur, c'est pas un bon signe, il faut que tu t'interroges sur quelle est la cause, comment ça va se passer. » Et il y a peut-être des actions qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, fort de ce constat, j'ai aussi eu pas mal d'échanges avec d'ailleurs l'intégralité des organisations patronales et syndicales pour parler de ça. Tout le monde me dit effectivement la prévention, ouais, la prévention c'est important, il faut en faire, on est tous d'accord. Mais chacun, c'est pas une mauvaise critique, chacun a sa religion de la prévention. Le MEDEF fait la sienne, la CPME fait la sienne, etc. Mais vous savez, en communication, quand on veut parler d'un sujet, si tout le monde envoie son message d'une manière clairsemée, en fait, cette communication, elle n'est pas audible, elle n'est pas efficace. Donc, je me suis dit, il faut qu'on trouve un moyen pour canaliser ces flux et canaliser cette communication. Ça a été pour moi, en tous les cas, l'analyse que j'ai faite. Et là, il faut trouver un outil pour le faire. Il y a 2 ans auparavant, j'avais rencontré le président André Desjarry, et je lui ai dit, il m'a dit, mais tu sais, on a un outil qui s'appelle le CIP. Dans 2 ans, j'avais complètement oublié ce que c'était. Je suis revenu vers la CCI pour dire, parlez-moi de cet outil, c'est quoi? Et j'ai rencontré Delphine et Patrick Ciotti. Je l'appelle Pierre d'habitude, mais c'est Patrick.
C'est Coty, pardon, je
peux y aller. Et donc, ils m'ont expliqué ce que c'était, et je me suis dit, ben voilà, ça peut être le bon pignon. Si cet outil, on l'approprie, donc Delphine vous expliquera, je ne vais pas dévoiler ce que c'est, vous savez, en plus c'est un outil qui a été initié par les experts comptables à l'époque, donc il y a plus d'une vingtaine d'années. Donc pour le coup, ça me semble très pertinent d'en reparler ensemble ce soir. Et donc cet outil, pour moi, c'est un petit peu comme si vous avez un pignon central dans une boîte de vitesse avec le MEDEF, la CPME, et tout le monde, dès qu'on va avoir une demande sur la prévention, c'est d'orienter ces personnes là-dessus, puisqu'ils seront, je dirais, bien conseillés, en tous les cas, le plus justement possible, compte tenu des personnes qui composent la commission de prévention du CIP lorsqu'elle est actionnée. Mais ça, je laisserai le soin à Delphine de l'expliquer. Et donc, pour faire ça, on a créé ce CIP en octobre dernier. On a rencontré 6 entreprises, c'est ça ? Sur 2023. Les dates se font, c'est en train de s'enchaîner. Il y a des statistiques qu'on pourra partager, c'est très bien fait d'ailleurs, je les ai découvertes sur le chiffre d'affaires que ça génère, tout confondu, le nombre de salariés, qu'est-ce que c'est devenu, vers quoi on les a dirigés, etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et donc, ça a été fait en 2023. Et 2024, comme je l'ai dit lorsque j'ai pris lors de l'audience solennelle, il faut le faire fonctionner. Donc il faut communiquer dessus. Donc communiquer auprès de vous, communiquer auprès et vous vis-à-vis des clients, le cas échéant, on en reparlera, vis-à-vis aussi de toutes les organisations patronales, qu'elles reprennent le rebond de cette action pour communiquer dessus. Donc je sais aussi que ce n'est pas le fait d'en avoir parlé une fois que ça va suffire. Je sais qu'il va falloir qu'on refasse une vague de communication avec eux, certainement mois de juin ou mois de septembre, et ça, il faut qu'il y ait de la récurrence pour en parler, parce que sinon, c'est comme tout, les choses se dispersent dans le temps. Donc ça, c'est normal, et c'est bien comme ça qu'on va le faire, de manière à optimiser cette action sur la prévention. Alors je ne dis pas que, mais en l'état actuel, les éléments de la prévention, les procédures de prévention du tribunal de commerce, elles sont pas loin d'être au ras des pâquerettes. Hein. Je veux dire, elles sont très très peu. On peut les compter sur les doigts d'une main pour le moment. Donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et donc il faut qu'on les actionne, ces procédures-là. Et à l'inverse, vous verrez tout à l'heure dans les chiffres, on a les procédures de redressement judiciaire, et plus particulièrement de liquidation judiciaire, qui explosent. Et donc c'est pas, il ne faut pas qu'on laisse cette situation perdurer. C'est pas, je pense qu'on a un rôle qui doit être joué différent. Et ce rôle, on peut le faire, parce que je vais prendre un exemple, je vais faire le pendant, sur le contentieux général. Le contentieux général, on a une procédure de conciliation qui s'appelle MARD, le mode alternatif des résolutions. Bon, Marc le sait, on en a parlé il y a 3-4 ans. Depuis 3-4 ans, on n'avait jamais fait de MARD. A l'inverse, je regardais les statistiques nationales, elles ne sont pas flamboyantes, mais c'est 10 ou 11% du volume de MARD qui se faisait. Quand j'ai été voir le premier président, il me disait que c'est une préoccupation, la résolution amiable, c'est une préoccupation de la justice aujourd'hui, tant sur les contentieux généraux que sur les procédures collectives. Il me disait, alors, le MARD, qu'est-ce qu'il dit? Oh, ça se passe bien, hein. Et heureusement qu'il ne voit pas les stats, parce qu'il demanderait plutôt de lui expliquer pourquoi ça se passe bien. Et donc, je me suis dit, on ne peut pas rester dans cette situation d'échec. Forcément, on n'a pas l'approche, la bonne approche. Et quand on regarde, quand on a un contentieux général, on a qui? On a un tribunal, un avocat et une personne, une société. Donc, j'ai rencontré le barreau. J'ai expliqué la problématique, j'ai expliqué aussi notre problématique de dossier qui augmentait, et on s'est mis d'accord sur deux choses. Donc, de revoir notre calendrier de procédure pour l'adapter par rapport à la nature des dossiers et essayer d'aller plus vite pour leur résolution, mais surtout d'intégrer dans ce calendrier, parce que ça ne l'était pas, les procédures de marge. Et donc de proposer, sur proposition du tribunal, de dire à un avocat, écoutez, ou deux avocats, nous pensons que ce dossier-là pourrait aller en marge. À l'inverse de ce qu'on faisait avant, on l'imposait, on disait, bon, ce dossier, en marde, le 15 du mois prochain. Bon, c'est sûr que ça ne marchait pas. Là, on leur a dit, on pense que ça peut le faire. Voyez avec vos clients, et dans 15 jours, quand vous revenez en audience d'orientation, vous nous dites quelle position vous prenez là-dessus. Ils ont été aussi attentifs parce que l'augmentation des procédures et la durée les concerne aussi. Quand on fait quand on rentre en procédure de marde, le jugement il est définitif, il ne peut plus le frapper d'appel, ça sort du road, c'est fini. Donc ça évacue aussi les choses, et si eux, comme nous, on se trouve englués, eh bien on perd de l'efficacité, ils perdent de la rentabilité, etc., etc. Donc ils sont concernés là-dessus, et puis d'autant qu'aussi, si l'objectif que je leur ai donné, j'ai dit, à minima, faisons au moins ce que fait la France. Et si on fait ça, chez nous, c'est 12 dossiers à l'année. Un par mois. Quand même pas aller chercher le pompon en haut du mont Kilimanjaro. C'est assez rare, c'est pas énorme. Mais si chacun y met un peu de bonne volonté, ça marche. On a mis ça en place en septembre. On a fait 2 jugements de marde à fin décembre et on en a 2 autres en cours. Donc ce que je veux dire, c'est que si les parties s'accordent et décident d'agir, ça marche. Ça marche. Et je dis que pour la prévention, si on arrive à s'accorder là-dessus et à se donner ces moyens-là, ça marchera aussi. Ça commence 2, c'est pas beaucoup, mais c'est 2 sur 4 mois, c'est, pour moi c'est beaucoup, parce que si je fais le ratio, c'est énorme en pourcentage. Mais voilà, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Donc, c'est en cela que je dis que je suis content d'être parmi vous ce soir, vous m'ayez invité pour pouvoir parler de cela, et c'est comme ça qu'est né le CIP. Je pense que maintenant, pour le faire vivre, et que ça ne soit pas un outil qui soit dans le paysage comme ça, qui traîne, il nous appartient de s'en approprier, de l'utiliser, et d'en faire. On a eu une réunion, parce que dans la communication, on a eu une réunion avec la CCI la semaine dernière, j'ai dit, bon, je suis pas sous couvert de Delphine, qu'est-ce qu'on fait en matière de communication sur le CIP? Bon, il n'y avait pas beaucoup de choses. Donc, on a dit, bon, il faut qu'on trouve des moyens. Donc, on a décidé de mettre en place un site. D'abord, une petite carte virtuelle, digitale, qu'on va pouvoir donner, que je vais pouvoir partager avec les organisations patronales, etc., pour qu'elles puissent donner à leurs adhérents. Écoute, voilà, tu as un souci, CIP, voilà, tu as un téléphone, tu as un mail, tu les appelles, ils vont t'orienter, ils vont te guider, ils vont te prendre en charge. On a essayé de faire un mini-site qui va être créé, qu'on partagera sur, pour donner de l'information. On a décidé de faire du référencement aussi pour que si on tape entreprise en difficulté, qu'on fasse ressortir le CIP. Et c'est un CIP biterrois. Je précise bien, c'est pas que j'ai une culture très restrictive, mais bon, je sais bien qu'on reste dans nos régions. On est à Béziers et c'est donc bien sûr biterrois que cette action se met en place. Avec nous tous. Donc voilà, c'est pour moi ces éléments de prévention, excusez-moi, j'étais un petit peu long, mais c'était important, et la seule façon de réussir pour sauver des entreprises, sauver des salariés, aussi travailler et contribuer à l'amélioration de notre économie, je ne peux pas le faire tout seul, Marc non plus, c'est ensemble, tous, on est tous acteurs à un moment donné, il faut en prendre conscience et agir dans ce sens-là. Voilà. Que je pouvais vous dire sur cette prévention par rapport à mon expérience et mes objectifs à venir. Merci.
Merci, Président. Bonjour à toutes ou rebonjour à toutes et à tous. Moi aussi, également, je vous souhaite mes meilleurs voeux de santé avant tout pour cette nouvelle année et puis beaucoup de bonheur pour vous et tous vos proches. Alors moi, j'interviens avec une double casquette, hein, en tant que confrère, expert comptable et en tant que vice-président du tribunal de commerce et plus particulièrement en charge donc des procédures collectives. Il est évident qu'on a tous intérêt à sauver et à sauver les entreprises qui sont nos propres clients et qui sont en même temps nos sources de revenus. C'est notre intérêt particulier et c'est l'intérêt général. Eric a fait le constat du manque de prévention qu'il y avait sur le tribunal de commerce de Béziers, mais je lui ai dit, mais les premiers interlocuteurs qu'on a, ce sont les experts comptables. Je lui ai dit, on ne les touche jamais. Et moi, je me rappelle du début de mon exercice professionnel où aller au tribunal de commerce, pour moi, il y avait une barrière, il y avait un truc, il fallait démystifier cette institution. Et je crois que le message aujourd'hui, moi, que je voudrais faire passer auprès de vous, c'est, bon, je vais vous donner quelques éléments, on va parler de la conciliation des mandats ad hoc, je vais vous donner quelques éléments techniques, mais l'idée n'est pas là aujourd'hui de faire un cours magistral là-dessus, parce que j'ai fait une formation de 6 mois sur les procédures des entreprises en difficulté, sur la restructuration des entreprises en difficulté, et on ne peut pas le faire, et vous le savez bien, on ne peut pas rentrer dans les détails trop pointus en une heure de temps. Donc, mais moi, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire de passer le message à l'ensemble de la profession de venir nous voir. Alors, à défaut de venir nous voir, d'aller voir le CIP. Mais le tribunal de commerce de Béziers, il est hyper facile d'accès. On n'est pas dans une grande ville, on est tous des professionnels, on est tous des chefs d'entreprise. Et donc, demander un rendez-vous au président avec vos clients, c'est extrêmement simple. Et en fin de compte, il y en a extrêmement peu. Qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous demandé au président ?
Un par mois.
Et on a... En règle générale, on a en procédure collective, avant le Covid, de tête, on avait 350 ouvertures de procédure collective. 12 demandes de prévention. C'est-à-dire que personne ne vient. Et devant le tribunal, je vois très peu d'experts comptables. On voit très peu d'experts comptables venir vers nous. Alors que c'est pour nous, en juge au tribunal de commerce, l'expert comptable, et je ne parle pas en tant qu'expert comptable, je parle en tant que juge, on est la caution. La garantie du fait que l'entreprise est sérieuse, elle est accompagnée par son expert comptable. Eric peut en témoigner, quand un expert comptable est là avec son client, ça change tout. Ça change tout. Donc on a tout intérêt à accompagner nos clients. Alors certes, il y a des problèmes d'honoraires, de paiement, de règlement, de clients qui disparaissent, mais vous avez tout intérêt à venir vers le tribunal de commerce et à pousser vos clients à venir nous voir le plus tôt possible. Bon. En matière de prévention, l'élément clé, c'est l'anticipation et le bon sens. Je crois que c'est pas la peine de travailler sur des ratios, on peut mettre tous les ratios du monde que vous voulez, le simple bon sens, c'est souvent l'élément clé de la réussite et c'est souvent l'élément clé de la sauvegarde d'une entreprise. Alors j'ai repris des slides qu'avait déjà préparé l'ordre sur la détection de certains signaux, mais là aussi, hein, c'est tout se relève du bon sens, hein. Une entreprise qui voit son chiffre d'affaires diminuer, ses marges diminuer, nos honoraires qui ne sont pas payés, des charges d'exploitation non couvertes par les marges, une détérioration du fonds de roulement, une CAF insuffisante pour faire face aux exigences d'emprunt, des retards de paiement des exigences fiscales, le non-respect des règlements, des délais de règlement. Tout ça, c'est évidemment des signes qui doivent alerter vous-même et vos collaborateurs et vos équipes. Et là, je crois qu'aujourd'hui, l'idée cette année sur cette période fiscale, elle va être de sensibiliser toutes vos équipes et vos collaborateurs. Parce que là, on va se retrouver, je ne sais pas si ça va être une vague, mais il va y avoir du monde. Il va y avoir du monde en difficulté, le nombre d'injonctions, Eric n'en a pas parlé, mais le nombre d'injonctions payées a augmenté de 50% depuis le début de l'année. 30%. 30%, c'est pas mal quand même, le nombre d'injonctions payées. Ça, ce sont des entreprises qu'on va retrouver derrière, qui sont en contentieux général et qu'on va retrouver derrière en procédure collective. Donc, mettez en place les outils nécessaires dans vos cabinets pour que vos collaborateurs vous fassent remonter le plus tôt possible les informations et pour pouvoir sauver les entreprises qui peuvent l'être. Bon, il y a aussi des signaux qui sont relatifs au marché, les signaux opérationnels, la défaillance de clients, la sous-activité, la perte de marché important, le retard de livraison, l'obsolescence des outils de production. Bon, mais je ne vais pas rentrer. Ça relève plus du bon sens que de la technique. On n'a pas besoin d'être expert comptable pour ça. Donc, comment les détecter? Mettez en place dans vos dossiers de travail les éléments qui vous fassent remonter l'information suffisamment tôt. L'ordre a mis en place un outil, un pré-diagnostic que vous pouvez retrouver sur diagnostic.expert. Alors, j'ai essayé de le tester. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut mettre son nom. Enfin, il faut vraiment être un cas réel. Donc, je ne suis pas allé au bout de la démarche. Et ça me paraît, enfin, c'est certainement un très bon outil qui a été fait par l'ordre. Mais je suis pas, la plupart d'entre nous, à la lecture d'un bilan et à la lecture en comparatif N-1, on voit vite la détérioration et on voit vite qu'il y a un problème. Il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir des outils ultra développés pour savoir qu'une entreprise va se retrouver très vite en difficulté et va très vite être en état de station de paiement. Le CIP aussi a mis en place un outil qui est plus facile. Là, par contre, là, je l'ai essayé. Là, par contre, pour le coup, vous rentrez les éléments et très vite, vous voyez, ça vous met entreprise en grand danger, venez nous contacter. Bon. Vous pouvez le faire utiliser par vos clients. Pour moi, l'élément clé, il est la mesure de l'état de cessation des paiements à un moment donné. C'est vraiment la clé de tout. Et nous ne sommes pas formés là-dessus. On est formé, alors peut-être ça a changé, ma formation date un peu maintenant, mais peut-être que ça a changé, mais on est formé à accompagner des entreprises dans leur réussite. On n'est pas formé pour accompagner des entreprises dans leurs difficultés, dans leur échec. Donc l'état de cessation des paiements, on l'a tous vu en formation, mais au final, on l'a tous, la plupart des experts comptables que je rencontre, en tout cas, l'ont oublié. Donc l'état de cessation des paiements, du coup, moi j'ai un réflexe, le tribunal de commerce, qui fait que sur chaque entreprise, depuis 10 ans, 10 ans que je suis au tribunal de commerce, sur chaque entreprise dont je détecte des signaux de difficulté, je calcule, je fais une estimation de l'état de cessation des paiements à chaque fois, systématiquement. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place qui est très facile, de dire à vos collaborateurs, ou à vous faire vous-même, de calculer l'état de cessation des paiements. Donc, il est défini par un article du code de commerce, et c'est l'état de cessation des paiements est défini comme l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Je vais donner une petite définition de l'actif disponible et du passif exigible. On ne va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de jurisprudence à ce sujet. Et l'idée n'est pas ici de rentrer dans des détails trop pointus. Le passif exigible, il est extrêmement simple, comme l'actif disponible d'ailleurs, c'est l'ensemble des dettes de l'entreprise arrivées à échéance. Il y a eu quelques jurisprudences qui a voulu dire oui, mais il faut que la dette soit exigée. Pas du tout, il ne faut pas que la dette soit exigée, il faut que ça soit exigible. Que le fournisseur réclame sa créance ou pas, elle est exigible, elle rentre dans le passif exigible. Bien évidemment, celles qui ne sont pas échues ne rentrent pas dans le passif exigible. Et l'actif disponible, là, il n'y a pas besoin de tergiverser, il n'y a pas besoin de se demander si les créances clients, si le stock, si les IMO, si quoi que ce soit, non, il n'y a rien qui rentre dedans. Dans l'actif disponible, il n'y a rien qui rentre dedans, ne rentre dedans que la trésorerie et les moyens de financement qu'on peut mettre en place à très 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 court terme. Quelqu'un qui a un découvert autorisé, quelqu'un qui a une ligne de DAI, quelqu'un, ça oui, mais qu'on peut mettre en place instantanément, pas qu'on va devoir négocier avec une banque pour octroyer un crédit quelconque à un horizon un mois. Ça, non, ce n'est pas de l'actif disponible. L'actif disponible, c'est la trésorerie plus les moyens de financement qu'on peut mettre en œuvre immédiatement. Donc, quand l'actif disponible n'est pas suffisant pour couvrir le passif exigible, on est en état de cessation des paiements et c'est l'élément clé. À partir de là, on va obligatoirement, quasiment obligatoirement, passer dans le cas des procédures collectives. Et je vous rappelle qu'une entreprise qui détecte son état de cessation des paiements a 45 jours pour venir déposer son état de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce. Si elle ne le fait pas, c'est la plupart du temps ce que retient le parquet pour sanctionner le chef d'entreprise qui n'a pas répondu à son obligation de dépôt de bilan dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements. Jusqu'à présent, on n'a pas vu, je ne pense pas qu'on ait de mise en cause d'un expert comptable, parce qu'il y aurait pas, il y aurait eu un défaut de conseil envers son client. Mais un jour, il y a un cabinet qui va se retrouver emmerdé avec ça. C'est sûr et certain, il y a un cabinet, c'est le cas, voilà, je n'ai pas assez de recul dessus, hein. Mais un jour, on aura un cabinet qui va être enquiquiné parce qu'une entreprise n'aura pas déposé son bilan, n'aura pas déposé son attestation des paiements dans les 45 jours, et il se retournera contre son expert comptable en disant « défaut de conseil ». Vous auriez dû prévenir et mettre en cause le cabinet dans la procédure. Donc, les procédures de prévention qui s'offrent à nous avant l'état de cessation des paiements, elles ne sont pas très nombreuses, il y en a deux essentiellement, et je vais vous les expliquer, qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. En ce qui concerne la prévention, Eric en a parlé tout à l'heure, il y a à l'initiative du tribunal, ben ça c'est le président du tribunal qui convoque un certain nombre d'entreprises sur certains indicateurs, en fonction de certains indicateurs, et qui va les amener à réfléchir à des solutions. Bon, ça, Eric en a parlé.
Ah, juste une précision, on s'est accordé avec le parquet aussi, parce que ces entreprises, il y en a qui restent aisantes, malgré des relances, malgré le fait. Et donc, à la demande de... Je me suis rapproché du il m'a dit, écoutez, soumettez-moi un dossier, c'est-à-dire pour qu'on convoque cette entreprise, nous nous font la convoquer, je demande des informations complémentaires à l'URSSAF, DGFiP, qui, si elles disent, ouais, effectivement, on a une dette là, etc., c'est lui qui assigne directement en procédure collective cette entreprise. Et généralement, on a fait un dossier, elle a été liquidée dans la foulée. Bon, elle a resté, ça ne servait à rien qu'elle continue à créer un déficit. Donc on a aussi, on est suivi, dans la mesure d'un volume raisonnable, comme il m'a dit, par le parquet pour pouvoir aussi assainir ces entreprises qui me disent tout le monde.
Et bien sûr, la prévention à l'initiative du chef d'entreprise, et c'est là où j'insiste et je reviens sur notre rôle. Là, par contre, on a vraiment un rôle important à jouer d'accompagnement devant le président du tribunal de commerce pour accompagner les entreprises qui peuvent être sauvées et pour leur expliquer la procédure. Donc, moi, je pense que le CIP, c'est une très bonne chose, mais pour vous qui êtes là dans la salle, aujourd'hui, la porte du tribunal de commerce, elle est grande ouverte. C'est extrêmement simple de prendre rendez-vous avec le président du tribunal. Et si Eric n'est pas là, c'est moi qui assume la fonction. Donc, on n'en reçoit pas assez. On en reçoit un par mois. C'est pas suffisant. Donc, j'avais placé là un point sur les chiffres. Je ne sais pas si tu veux...
Les chiffres, c'est les chiffres qui sont nationaux. Ça arrête au mois de mai 2023. Juste, ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui concerne les procédures collectives pour le tribunal de Béziers, elles ont progressé de 16%. La France a progressé de 33%. Bon. Ceci étant, ce qu'il faut, et on revient donc à une volumétrie qui était identique à celle de 2019. Donc, on va dire que la période Covid est derrière nous maintenant, mais on n'est pas encore revenu à une volumétrie qu'on a connue en 2014-2015. Là, c'était encore plus important, mais le contexte économique n'était pas le même. Il faut savoir que sur... on a fait 107 redressements judiciaires. Ça représente 34% du volume des procédures collectives à Béziers. Et les redressements judiciaires ont progressé de 94% par rapport à N-1. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fort. Et les liquidations judiciaires, on en a fait 176. Ça représente 56%. Des procédures collectives et elles ont progressé de 16%. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé sur la volumétrie 2023.
Je peux juste intervenir. Je ne sais pas si ça marche.
Juste oui, par rapport à ces chiffres qui sont un petit peu anciens, certes, mais qui nous donnent quand même un élément qui me semble important, ce sont les variations depuis un an, c'est-à-dire entre mai 2022 et mai 2023. On voit que les mandats ad hoc et les conciliations sont en diminution, en variation par rapport à un an, alors que la sauvegarde et le redressement sont en très grosse progression, ce qui n'est pas un bon signe. Parce que ça veut dire que les procédures amiables, qui sont, elles, vecteurs de succès, ont tendance à diminuer au profit donc des procédures collectives qui ont un taux de succès bien moindre. Ce qui veut bien dire qu'on attend, on espère, et puis on se retrouve au pied du mur et on est obligé d'attaquer sur les procédures courtes. Et là, on sait qu'on a moins de chances de s'en sortir.
Quasi aucune, en fait. Je crois qu'on a... Puisqu'en fait, on clôture, quand un plan de redressement est apuré, Le débiteur entreprise vient devant nous. Moi, je dois en faire pour constater l'appurement d'un plan de redressement. Je dois en faire 5 par an. Bon, donc en termes de procédures qui relèvent de la compétence du tribunal de commerce, on a soit les procédures amiables, donc qui sont le mandat ad hoc et la conciliation, soit les procédures collectives, sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire et rétablissement professionnel. L'idée ici, c'est pas de travailler, c'est pas de vous présenter les procédures collectives. Je vous l'ai dit, elles aboutissent dans 95% des cas à la disparition de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est de vous présenter les deux procédures de règlement amiable qui sont donc le mandat ad hoc et la conciliation. Ce sont des procédures qui sont relativement similaires et qui consistent donc à venir devant le tribunal de commerce et à demander au président du tribunal de commerce de faire nommer un conciliateur ou un mandataire ad hoc qui va intervenir pour régler, pour essayer de trouver une solution à une difficulté financière que peut rencontrer une entreprise. Ce conciliateur ou ce mandataire ad hoc est généralement, en tout cas à Béziers, est systématiquement un administrateur judiciaire. Je crois que ce n'est pas toujours le cas dans tous les tribunaux, mais nous, en tout cas, généralement, on fait nommer un administrateur judiciaire. Le mandat ad hoc, il est ouvert à toutes les entreprises, quelle que soit leur activité, leur forme juridique. Il y a deux conditions à respecter pour pouvoir nommer un mandataire ad hoc, c'est l'existence d'une difficulté financière ou des situations de blocage entre les associés notamment. Là, on parle essentiellement des difficultés financières. Et ne pas être en état de cessation des paiements. Là aussi, en fait, la loi ne dit rien, mais en fait, il ne faut pas qu'elle soit en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Donc, on peut être en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours. Ce qui est vachement difficile à trouver. Ça, je vous concède, l'exercice est périlleux. Mais, quoi qu'il en soit, la règle, c'est de ne pas être en état de cessation des paiements, retenez ça, et c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je vous disais, dans les dossiers que vous sentez en difficulté, de mesurer cet état de cessation des paiements, parce que si on s'aperçoit qu'on a une entreprise qui est en train de dégringoler, ça, on s'en aperçoit, mesurer l'état de cessation des paiements et de constater que l'entreprise n'y est pas, ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire, bon, on sait pertinemment, le chef d'entreprise vous dit, j'ai pas de marché devant moi. Voir est-ce qu'on peut rentrer dans une procédure de conciliation ou un mandataire ad hoc qui va être nommé pour essayer de trouver une solution financière, ça peut être intéressant. Donc, vous avez tout intérêt sur la période fiscale qui arrive parce qu'il va y avoir des difficultés. Hein, il va y avoir, dans le bâtiment notamment, vous le sentez tous, enfin, il n'y a pas besoin d'être. Oui, tous les secteurs d'activité vont être touchés, le commerce, la viticulture, malheureusement, il y a beaucoup de commerces qui vont être touchés. Donc ne pas être en état de cessation des paiements. Même chose pour la conciliation, ouverte à toutes les entreprises qui exercent, sauf celles exerçant une activité agricole. Donc, elles ne doivent pas être non plus en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Donc les deux mêmes conditions pour la nomination d'un mandataire ad hoc et ou d'un conciliateur. Ces modes de règlement, des difficultés, ils aboutissent dans 75% des cas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont confidentiels. Personne ne le sait, à l'inverse d'une procédure collective. Hein, tout le monde est informé de la procédure collective, tout le monde rentre dans l'information, tout le monde est informé des difficultés. Donc, elles ne font l'objet d'aucune publicité, sauf dans un cas si le tribunal homologue une procédure de conciliation, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à son terme, je vous en reparlerai. Ce sont des procédures qui sont souples, ce sont des procédures qui sont rapides. Elles durent pour la conciliation 4 mois maximum plus 1 mois. Et pour le mandat ad hoc, c'est le président qui va déterminer une durée, mais c'est relativement court en règle générale. Et c'est quelque chose qui est contractuel. Ce n'est pas une procédure judiciaire. C'est un mix parce qu'il y a une décision judiciaire qui va nommer, mais après, on est sous le régime des contrats. C'est un contrat qui va être passé entre l'entreprise en difficulté et son débiteur ou ses débiteurs de façon à trouver des solutions au règlement de la dette qui existe entre les deux. Donc ce qui en fait la réussite, c'est l'anticipation et la confidentialité et le petit nombre d'interlocuteurs qui vont entrer dans la négociation entre l'entreprise et les difficultés qu'elle peut avoir, donc avec 1, 2, 3, 4 débit cas. Bon, ce sont des procédures qui ont un coût. Donc évidemment, une entreprise, une TPE avec un passif faible, ça, c'est pas forcément très judicieux. Mais la convention d'honoraires, elle doit être négociée entre l'entreprise et le conciliateur. Et il y a une lettre de mission qui a été mise pour ça, et je crois qu'elle doit être déterminée, elle doit être donnée avant la nomination par le président du tribunal. Ouais, elle est validée par le parquet. Donc, le rôle du conciliateur ou du mandataire ad hoc, il est cantonné, son rôle est cantonné à la mission que va lui donner le tribunal de commerce. Et donc, son champ d'intervention, la plupart du temps, hein, ça va être d'analyser la situation financière de l'entreprise. Hein, et ils font ça très bien, les administrateurs font ça très bien. Je ne sais pas si vous avez déjà été amené à travailler avec des administrateurs, mais ce sont des gens qui sont très, très pointus sur les analyses financières d'une entreprise, sur les mécanismes de fonctionnement des entreprises, sur les prévisionnels, parce que c'est eux qui vont présenter tous les plans de redressement, qui vont accompagner les entreprises en difficulté et qui vont présenter les plans de redressement devant le tribunal. Et donc, ce sont des gens qui sont extrêmement aguerris à la négociation entre l'entreprise et ses débiteurs. Donc sa fonction, ça va être de négocier avec les créanciers, qui peuvent être des partenaires financiers, les banques, l'URSSAF, les caisses de retraite, le Trésor public, et tous les fournisseurs qui peuvent exister, tous les créanciers qui peuvent exister. Il peut également, le conciliateur ou l'administrateur ad hoc, aller rechercher des financements auprès des actionnaires ou d'établissements financiers spécialisés, voire même des investisseurs. Dans certains cas de figure, là j'en parle pas, mais ces dispositifs de traitement des difficultés, dans le cadre de la conciliation du mandat ad hoc, ça peut être des étapes qui sont préalables à un plan de cession de l'entreprise. Donc parce qu'ils vont amener l'entreprise à réfléchir à sa difficulté et le chef d'entreprise, parfois, dans certains cas, va avoir un regard nouveau qui va être porté sur les difficultés qu'il a et sur son incapacité à redresser la situation. Et donc, ça peut être une étape préparatoire à un plan de cession de l'entreprise. La différence entre les deux procédures, donc en cas d'issue heureuse, il y a un accord qui est conclu, donc un contrat entre le débiteur et le créancier. Il s'impose aux parties, comme tout contrat. Mais dans le cas de la conciliation, les parties peuvent demander de faire constater l'accord au tribunal de commerce, pas le président, afin de renforcer sa légitimité. Et là, à ce moment-là, l'accord, tant qu'il est juste constaté, il reste confidentiel. Ça ne fait que conférer une force supplémentaire, mais il n'y a pas de caractère obligatoire. On peut aussi faire homologuer cet accord de conciliation. Alors là, le président va l'accorder, cette homologation, uniquement si la conciliation ne porte pas atteinte aux autres créanciers, sinon ça, on ne pourra pas homologuer la conciliation. Et là, évidemment, l'accord n'est plus confidentiel, il y a une décision du tribunal, il n'est plus confidentiel, mais par contre, il peut y avoir des créanciers qui vont demander cette homologation parce qu'il va conférer aux créanciers un pouvoir plus fort et surtout des garanties plus fortes, parce que si ce créancier a octroyé un crédit supplémentaire ou a apporté de l'argent ou quels que soient les éléments financiers qu'il a pu mettre en œuvre, à ce moment-là, l'homologation va conférer un privilège plus fort, qui est un privilège qu'on appelle le privilège de la new money, qui est une garantie très forte de pouvoir, recouvrer l'argent qu'il a pu amener ou le crédit qu'il a pu octroyer à l'entreprise en difficulté. Il va devenir un créancier privilégié par rapport aux autres créanciers. Donc, dans certains cas de figure, les créanciers ont tout intérêt à demander l'homologation auprès du tribunal de commerce.
Ce qu'on peut voir aussi, peut-être, c'est que lorsqu'on s'y prend, lorsqu'on est assez en anticipation, et lorsque l'on attaque donc une procédure amiable, parfois la négociation, dans certains cas de figure, elle peut être longue, elle peut être difficile, et on a le problème de la limite de la durée de la conciliation. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'on commence par un mandat ad hoc, on va négocier, on va préparer l'accord, on commence par un mandat ad hoc, et si d'aventure les créanciers souhaitent avoir cette homologation, eh bien on va demander la conversion du mandat ad hoc en conciliation. On rentre dans ce délai contraint, mais comme on a fait toute la préparation en amont, on peut très bien arriver au bout dans le délai de la conciliation et obtenir donc l'homologation dans un deuxième temps. Mais pour ça, effectivement, il faut être en prévention.
Tout à fait. On a dépassé le délai de 5 mois, qui est parfois un petit peu court pour arriver aux fins voulues par l'entreprise. Et ces périodes-là peuvent aussi permettre, je vous le disais tout à l'heure, d'être un préalable à la procédure de redressement judiciaire qui est, et dans laquelle on peut envisager un plan de cession, ce qu'on appelle un prépa cession. C'est un autre sujet, je ne l'ai jamais vu depuis 25 ans que je suis expert comptable et je ne l'ai jamais vu depuis 10 ans que je suis au tribunal de commerce. Et quand j'ai fait la formation à la Sorbonne, on nous a parlé avec grande éloquence du prépa cession. Donc je vous le ressors. Mais... Ah, oui, bon, après, Toulouse. Mais... Ah, on est un petit village, hein, je suis désolé. Hein, je... Nous sommes une province, a dit Robert Ménarier. Donc, en conclusion, moi, ce que je voudrais vous dire, pour terminer donc, sur cette partie-là, c'est de vous rappeler que ces chiffres-là, c'est que le taux de réussite des procédures amiables, c'est 75% des entreprises qui vont s'en sortir. Le taux de survie en procédure collective, c'est 5%. Dans un cas de figure, vous sauvez 75% de vos clients, dans l'autre cas, vous sauvez 5%. Du point de vue purement financier, je crois que notre intérêt est individuellement et collectivement à la sauvegarde de ces entreprises. Du tribunal vis-à-vis des experts comptables. Donc j'ai mis un certain nombre de choses que je te laisse lire.
J'ai des amis, tu as travaillé, bon, bien sûr, pour, comme l'a dit Marc tout à l'heure, l'anticipation de l'état de cessation des paiements.
Mais aussi, ce qui a été dit avant, les premiers signaux qui peuvent alerter, qu'il faut absolument ne pas hésiter de diriger. Marc disait tout à l'heure qu'on est facilement oui, accessible, je le dis, je le redis, je suis de permanence tous les lundis matin, voilà, il suffit de m'appeler, on prend rendez-vous, si ce n'est pas le jour même, c'est la semaine d'après, enfin, j'ai toujours eu la volonté, en m'organisant de la sorte, de pouvoir répondre de manière très rapide à toute demande, considérant qu'elle est urgente, et qu'on puisse, même si elle s'arrête juste à l'entretien, mais ça nécessite juste de pouvoir rassurer la personne, tant mieux. Il vaut mieux le faire que de passer à côté et de se retrouver 6 mois plus tard en situation difficile. Bien sûr, insister donc auprès des clients pour prendre rendez-vous avec le tribunal pour ouvrir la procédure. On est là, on est des chefs d'entreprise. Donc, c'est sûr que c'est le tribunal, c'est sûr que, bon, on parle du président du tribunal de commerce, mais en fait, je suis comme tous, hein, chef d'entreprise, j'ai mes problèmes aussi d'activités diverses et variées. Bon, voilà, j'ai pris cette mission-là, mais c'est pour aider mon prochain, comme je peux le dire. Et c'est purement là-dessus, parce que bon, au cas où, je vais rien dévoiler, mais vous savez qu'on est bénévole, hein, on n'est pas payé, on paye tout. Hein, et le temps que nous consacrons à cela, eh bien, on court après pour le récupérer au sein de nos entreprises. C'est comme ça. Bon, on a eu ce souhait, mais c'est bien dans ce sens-là. Démystifier le tribunal de commerce, oui, accompagner et venir avec. C'est vrai que quand l'expert comptable est présent avec son client, c'est facile parce que bon, on parle de chiffres à un moment donné, vous êtes plus à même de pouvoir bien les établir, les mettre en avant, il comprend mieux, il vous fait confiance et ça permet aussi de prendre certaines dispositions dans la foulée et fournir bien sûr les chiffres fiables dans les délais contraints, ça c'est important aussi.
L'accompagnement, il est super important. Alors je sais que quand on a des entreprises qui sont en difficulté, souvent, on n'est pas forcément les premiers payés. Mais je pense qu'il y a quand même, je vois quand même venir devant le tribunal de commerce un certain nombre de dossiers, de jolis dossiers, qui ne sont pas accompagnés par leur expert comptable, des boîtes qui ont 20-30 salariés et qui viennent tout seuls. Moi, je trouve que l'expert comptable, là, à chaque fois que je demande qui est l'expert comptable, je me dis, merde, il ne brille pas quand même le mec. Quoi, hein, ça change tout quand on a l'expert comptable qui est avec nous. Hein. Franchement, hein, alors, c'est vrai que j'ai un œil d'expert comptable, mais je pense que Eric, qui n'est pas du tout l'expert comptable, on sait que quand l'expert comptable va apporter des chiffres et qu'il va en attester, bon, bien évidemment, il va dire le chiffre d'affaires, bon, on n'a pas de baguette magique, on ne sait pas quel est le chiffre d'affaires, bien évidemment. Mais par contre, dans la réalité de tout ce qui est écrit derrière, on sait qu'on apporte une caution qui est forte pour le tribunal et qui va nous permettre de prendre des décisions. Quand on va demander à quand j'ai un expert comptable qui est là en face de moi et que je lui dis tiens, j'aimerais avoir une situation sur la période qui va du temps à temps, il va me dire bon, ben ça ne m'arrange pas, est-ce qu'on peut faire ça? Moi, j'ai trouvé des solutions avec lui. Si l'expert comptable n'est pas là, je vais dire à l'entreprise qui est devant moi, ben, sortez-moi une situation sur la période d'observation du 27 janvier au 28 juin. Super, l'expert comptable arrive et dit je dois sortir une situation du 27 janvier au 28 juin. Là, alors que si l'expert comptable est là, on arrive à discuter et on trouve quelque chose qui va donner au tribunal des éléments suffisamment probants pour prendre des décisions et qui soient faciles à mettre en œuvre pour le cabinet. On n'est pas obligé d'être à 2 jours près, à 3 jours près, c'est parce qu'il va changer notre regard sur la période d'observation.
Je vais compléter, parce que ça, c'est des situations qu'on rencontre souvent, parce que quand la personne vient seule, bon, le tribunal dit, bon, écoutez, on se revoit à telle date, et vous venez avec une situation intermédiaire et une situation prévisionnelle. Bon, ça arrive très souvent. Quand on se revoit, il n'a rien. Alors, je ne sais pas s'il a bien remonté l'information à son expert comptable, s'il a bien compris ce qu'il en était. Ça, c'est déjà le premier point. Ce qui n'arriverait pas si l'expert comptable était présent lorsqu'on fait cette demande. Et lorsque la personne vient, des fois qu'elle est seule avec son, des éléments, qu'on lui demande des explications sur pourquoi on a fait ça, pourquoi la marge augmente alors que le chiffre d'affaires reste constant, quelles dispositions étaient prises, il a un peu de mal à nous expliquer. Ça ne nous aide pas pour prendre des décisions. Et des fois, ça peut même nous conduire à arrêter. Parce qu'on se dit, bon, on ne va pas continuer cette activité avec quelque chose qui ne nous convainc pas d'une issue.
Bon, je crois qu'il est temps pour moi de répondre, parce qu'on est interpellé sur les attentes. Je plaisante. Sur les attentes, non. Sur les attentes du tribunal par rapport à la profession. Donc, on souhaitait bien entendu pouvoir avoir la possibilité donc, de vous montrer un petit peu ce qui se fait aujourd'hui au niveau du Conseil régional de l'Ordre. Donc, lorsque j'avais été à la rentrée solennelle du tribunal à Toulouse l'année dernière, le président, que je connais bien, puisqu'on a fait déjà des conférences ensemble, me disait, les experts comptables, on ne vous voit pas, vous n'êtes pas présent sur les dossiers, etc. Bon, c'est quand même, ça ne fait pas plaisir d'entendre ça. Et donc, j'ai expliqué au président du tribunal de commerce ce qu'on avait mis en place au niveau du Conseil régional pour justement apporter de l'aide à nos consoeurs, à nos confrères. Donc, Marc disait tout à l'heure, on n'est pas formé. On n'est pas formé, ben ça change pas mal, puisqu'il y a des formations qui sont proposées à Formega et à Cérécamp concernant, donc Formega pour côté Est, Cérécamp côté Ouest, de nos deux IRF hein, de la région qui travaillent en partenariat main dans la main. Donc, nous proposons déjà des formations qui sont dispensées donc plutôt pour un profil d'expert comptable. Soit sur un jour, soit sur une demi-journée, sur les entreprises en difficulté, détection d'abord des difficultés et traitement, et également quelles solutions choisir en fonction des cas. Donc ça, c'est plutôt à destination des experts comptables, et nous sommes en train de préparer, bon, c'est pas sur le slide parce qu'on est en train d'y travailler, un parcours qui va se dérouler sur la durée, donc plusieurs demi-journées de formation, sur 3 axes. Et qui sera destiné plutôt aux collaborateurs et aux stagiaires du cabinet, qui sont quand même au fait, je dirais, du fonctionnement des comptabilités de nos clients, et qui se retrouvent à devoir produire des éléments pour le tribunal, à la demande du tribunal, qui sont quelquefois sensiblement différents de ceux qu'on produit régulièrement pour nos clients quand on établit des comptes. Voilà. Donc ce parcours, il va se dérouler donc en 3 parties. Une partie technique, parce qu'il faut aussi leur donner, bien entendu, la connaissance suffisante des procédures existantes pour qu'ils soient investis, imbibés dans cet univers qui n'est pas l'univers classique, mais qui est un véritable outil de gestion, de mon point de vue, dont on doit se saisir en prévention. Donc, ça, je dirais, c'est assez classique. Ensuite, une deuxième partie qui est plus technico-technique et qui va leur parler, c'est-à-dire comment je dois traiter un dossier qui rentre donc dans cette phase de prévention ou de traitement des difficultés. Comment je fais ma TVA, par exemple, sur une période d'observation. La période d'observation, elle ne commence pas forcément le premier jour du mois. Comment je fais ma TVA du mois d'ouverture de la période d'observation, par exemple. Comment je vais traiter un état de cessation de paiement. Ce n'est pas une lecture directe d'un état de cessation de paiement. On ne peut pas dire, ben voilà, dans mon bilan, je vois le passif, dans mon bilan, je vois l'actif disponible et je peux savoir immédiatement si la société est en état de cessation de paiement ou pas. Ce n'est pas vrai. Il y a des retraitements à opérer, il faut leur montrer. Donc ça fait partie aussi des difficultés que l'on peut traiter au travers de cette formation. Comment je vais traiter le social lorsque je me retrouve dans une société qui sollicite un retraitement ou une sauvegarde. Enfin, il y a plein de sujets techniques qui sont quelquefois mal maîtrisés et qui font que ben, ça retombe sur les épaules de l'expert comptable qui est obligé de traiter un certain nombre de choses alors que les collaborateurs pourraient être formés. Autre point qui me semble primordial, comment je présente une situation au tribunal. Le tribunal ne veut pas une situation comptable classique. Il veut pouvoir, d'un coup d'œil, faire sortir la période d'observation du compte de résultat, voir si l'entreprise crée ou non des dettes nouvelles, pour savoir si elle est capable de revenir in boni et de créer de la monnaie pour ensuite assumer un plan ou pas. Enfin, donc, plus on va personnaliser nos états et répondre aux questions du tribunal, plus on va permettre à nos clients de sortir par la grande porte des procédures et de donner confiance au tribunal. Parce que ça, c'est vrai que c'est fondamental, la présence d'experts comptables, rassure, mais la qualité des états qu'on va présenter aussi. Voilà. Donc tout ça, ça sera traité dans la deuxième partie de la formation. Et la troisième partie, là, c'est une innovation qui, chez Laurent Garnel, l'ancien président du tribunal de commerce de Toulouse, qui m'a fait cette suggestion, il m'a dit, mais écoutez, moi, ce que je pourrais faire, c'est accueillir par petits groupes les apprenants pour leur faire assister à une séance au tribunal de commerce avec l'accord des entreprises, parce qu'on ne peut pas assister, les procédures ne sont pas ouvertes, donc avec l'accord des entreprises, pouvoir assister à une demi-journée, par exemple, de séances de procédure collective pour pouvoir donc voir comment se passe la procédure et démystifier déjà nous-mêmes le tribunal et pouvoir mieux en parler ainsi à nos clients et mieux les préparer parce que c'est un moment pour eux qui est nouveau, qui ne connaissent pas. Donc, dans la foulée, j'en ai parlé à la présidente du tribunal de commerce de Montpellier qui m'a donné son accord. Peut-être que j'en parlerai au président du tribunal de commerce de Béziers s'il est d'accord, c'est pas.
Vous avez mon accord, bien évidemment. Ça va dans le bon sens. Bien sûr. Par contre, je pense qu'il faut qu'on fasse la demande auprès du parquet pour leur dire, parce que les entreprises, on ne peut pas savoir, pour dire voilà, on a deux personnes qui sont là, un observateur, vous êtes d'accord, et puis tel mercredi,
vous passez. Moi, personnellement, je sais que j'amène souvent mes stagiaires lorsque je vais assister à une entreprise. Je demande au président du tribunal de commerce et au procureur si je veux créer l'entreprise, bien sûr, j'ai d'accord, puisque c'est un de mes clients. Si on peut venir et on peut faire assister donc, aux collaborateurs à cette procédure, et donc j'ai jamais eu un refus jusqu'à maintenant.
Voilà.
Mais voilà. Alors, et deuxième sollicitation, c'est les administrateurs judiciaires qui nous ont dit, mais nous aussi ça nous intéresse, parce que souvent on se heurte à une incompréhension entre la façon dont nous travaillons et ce qu'on attend du cabinet et ce que le cabinet produit ou le client. Donc, si vous souhaitez également passer par nos études pour faire voir un petit peu aux collaborateurs apprenants comment on gère un dossier en procédure collective, on est preneur. Donc, j'ai l'accord de Maître Vigreux à Toulouse, j'ai l'accord de Jean-François Blanc à Montpellier. Voilà, donc on va essayer de tisser, je dirais, un réseau de personnes qui pourront venir. Et ensuite, on pensait peut-être inviter, après une demi-journée de formation, sur un déjeuner par exemple, eh bien, inviter un président du tribunal de commerce, un administrateur judiciaire, pour qu'il puisse y avoir un dialogue, un échange et véritablement démystifier le fonctionnement des procédures. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous sommes en train de mettre en place donc avec Philippe Bourdieu, qui est directeur pédagogique de CERICAMP et de Formega. On va vous le proposer donc, au catalogue dès cette année. Et on espère beaucoup parce que je pense que les deux formations, formation des experts comptables et formation des collaborateurs, vont aller de pair. Donc ça, c'est pour la partie formation. Ensuite, on a organisé des conférences interactives avec Maître Vigreux et Maître Blanc sur 5 thèmes qui sont toujours disponibles pour vous en replay sur le site de l'Ordre, hein, vous avez accès, où là, nous avons abordé pas mal de sujets, pas que des sujets techniques. La première conférence, elle avait trait à un point qui est pour moi qui est crucial, c'est l'aspect psychologique du dirigeant en difficulté. Comment, parce qu'on nous dit, on n'a pas assez de dirigeants qui poussent la porte du tribunal, vous n'en parlez pas assez. Parfois, on peut en parler, on a aussi un déni face aux difficultés, des dirigeants qui refusent de voir en face la situation et qui refusent donc d'écouter aussi ce que l'on peut leur dire. Et ça, malheureusement, on y est confronté très souvent. Donc, cet aspect psychologique, on l'a traité lors d'une conférence et on s'est fait assister de l'association Amaroc, qui est une association qui travaille sur l'accompagnement psychologique du dirigeant. Et donc, si vous écoutez cette conférence, vous verrez, la dernière partie de la conférence, c'est l'intervention d'Amaroc, très intéressante, parce qu'elle nous a donné pas mal d'outils pour décrypter la difficulté du dirigeant psychologique, notamment le risque de burn-out. On a un outil de stressomètre, ils appellent ça, un stressomètre, qui va nous permettre, on n'est pas des psychologues, on ne va pas le devenir, mais d'analyser aussi quand même l'état des dirigeants que nous conseillons. Et parfois, de pouvoir leur donner un numéro vert, d'Amaroc ou d'autres, qui vont permettre donc aux dirigeants d'être entendus, d'être écoutés face à ces difficultés. Donc il y a des leviers qui peuvent permettre aussi de retrouver le dialogue avec le dirigeant et de lui faire comprendre la situation dans laquelle il est, ce qu'il ne comprend pas toujours. Voilà, par exemple, ce qui a été traité sur la première conférence. Les autres conférences étaient un peu plus techniques sur véritablement l'utilisation des procédures. Et enfin, troisième point sur lequel nous sommes très sensibles, c'est l'implication au travers des CIP, puisque vous l'avez rappelé, effectivement, l'Ordre des experts comptables a été à l'initiative de la création des CIP il y a déjà très longtemps. Et en région, nous sommes très attentifs, effectivement, au fonctionnement des CIP. Nous participons avec les associations et les chambres départementales aux différents CIP de notre région. Et nous avons créé, il y a trois ans, un numéro vert, qui est donc ici. Alors, c'est le 0806-110-392. Ce numéro vert, il est valable pour toute l'Occitanie. Alors, les CIP peuvent être joints par leur numéro propre, bien entendu, mais nous qui voulons communiquer au niveau de la région, on préfère donner aux experts comptables un seul numéro qui sera valable, que le client soit de l'Hérault ou qu'il soit de la Haute-Garonne. Vous pourrez joindre le CIP par le même numéro. Ce numéro, il tombe à l'ordre, au Conseil régional de l'ordre. Une permanente de l'ordre, bien sûr entendu, bénévolement, assure cette entrée et redirigera ensuite l'entreprise vers le CIP de son département. En ayant pris soin en amont de l'informer sur l'autodiagnostic et de lui donner un certain nombre de documents, ce qui nous permet, nous, au niveau ordinal, d'être certains que toutes les personnes qui sont passées par le numéro vert vont recevoir les mêmes informations et seront mieux armées pour ensuite se présenter devant le CIP. Mais bien sûr, il y a aussi des numéros directs, bien entendu, et on en reparlera. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire pour l'implication de l'ordre. Sachez que c'est un sujet, alors Marina m'a présenté, je suis le premier vice-président, mais je suis surtout président de la commission entreprises en difficulté, et c'est pour ça que je suis là ce soir, et c'est un sujet qui me touche profondément, et donc je suis très très motivé par rapport à ça. Voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés aussi, à rejoindre la commission, vous savez que vous pouvez y participer, et ça permet comme ça bien d'enrichir et de pouvoir dialoguer entre nous, ce qui me semble très bon. Alors justement, j'ai fait le pont, voilà. Puisque maintenant on va parler du CIP, mais de l'Hérault.
Oui, le CIP de l'Hérault. Donc effectivement, hein, les CIP, c'est bien un réseau national. Hein, donc vous avez le CIP national qui déploie en fait des modalités que l'on retrouve d'accompagnement, hein, que l'on retrouve sur l'ensemble des CIP du territoire. Au total, il y a une soixantaine de CIP en France. Et donc sur l'Occitanie, je crois qu'il y en a 7, avec notamment un dans l'Hérault, qui est porté par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Donc aujourd'hui, je représente le CIP et donc son président Patrick Secotti, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous. Mais également, j'ai une double casquette, puisque je représente aussi la CCI Hérault, puisque je suis responsable du pôle appui aux entreprises au sein de la CCI Hérault. Donc le CIP Hérault a été lancé par le président d'Algérie sur Montpellier donc en 2012. Donc on a plus d'une dizaine d'années de recul sur Montpellier. C'est vrai que se posait la question du côté Ouest Hérault, où sur notre fonctionnement à Montpellier, on reçoit environ une quarantaine d'entreprises par an. Et bien qu'on s'adresse à toutes les entreprises du territoire, les entreprises qui étaient basées donc sur Béziers, sur Clermont-l'Hérault, enfin, on s'apercevait qu'elles ne venaient pas. Même si elles nous contactaient et qu'elles avaient des difficultés, la proximité est un levier essentiel pour les chefs d'entreprise qui sont déjà avec un sentiment effectivement de doute, qui ont besoin d'être rassurés. Voilà, il faut éviter au maximum de leur mettre quelque part des actions qui freinent leur volonté de venir parler de leurs difficultés et de se faire accompagner. Donc les CIP ont un mode de fonctionnement que l'on retrouve partout, à travers ce qu'on appelle les entretiens du jeudi. Donc les entretiens du jeudi, ce sont des rendez-vous qui ont lieu une fois par mois. Sur Béziers, ils se déroulent au sein des locaux de la CCI Hérault, qui sont juste à côté, là, juste derrière, que vous connaissez certainement, rue de Chiclana, dans les mêmes locaux que Purple Campus. Donc là, on a déjà réalisé effectivement deux sessions. Et une fois par mois, on programme ces sessions, donc vous pouvez effectivement avoir accès au calendrier sur nos éléments de site internet à ce jour de la CCI Hero, mais bientôt sur une page dédiée. Et donc là, le prochain rendez-vous, ben justement, c'est demain, le 25 janvier. Et il y en aura un aussi le 29 février, le 28 mars, c'est pour que vous ayez ça en tête. Mais dans tous les cas, on vous recommuniquera tout ça avec l'ensemble des éléments pour que vous ayez bien tout ça en tête. Donc, l'entretien du jeudi, c'est vraiment des entretiens qui permettent aux chefs d'entreprise d'être reçus de manière confidentielle, vraiment dans une optique de bienveillance et d'écoute, de manière à ce qu'ils puissent voilà, s'exprimer en toute transparence, parce que souvent, la difficulté, c'est qu'ils ont effectivement honte aussi de ce qui leur arrive. Alors, c'est vrai que les CIP sont souvent rattachés aux chambres de commerce. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les chambres de commerce ont quand même un rôle fondamental dans la vie économique des chefs d'entreprise, mais c'est aussi un peu un lieu neutre où on vient pour prendre des renseignements, pour souvent mobiliser des aides. Et donc, la porte d'entrée CCI, c'est vrai qu'elle est intéressante. Pourquoi ? Parce que les chefs d'entreprise, ils nous appellent parce qu'ils ont, ils recherchent des financements. Alors ça, c'est le grand questionnement. Mais souvent, quand on creuse, la recherche de financement, c'est surtout recherche de financement pour combler des problèmes de trésorerie. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'on est un acteur qui intervient en amont pour la détection de la prévention des difficultés. Parce qu'à ce moment-là, donc, on va déclencher les outils CIP. Donc, comme l'indiquait M. Gillis, on a des outils donc, de diagnostic, hein, donc à travers le questionnaire diagnostic national. Nous, on leur demande toujours effectivement de remplir ces questionnaires en amont, que ce soit celui du CIP national, où il y a aussi un autre questionnaire qu'on utilise qui s'appelle « Comment va ma boîte ?» C'est le même principe, hein, voilà. Ensuite, nous, on prépare un petit état des lieux, en fait, de leurs problématiques. Souvent, c'est un état des dettes qu'on leur demande. Voilà, dette fiscale et sociale, et c'est souvent la problématique aussi, et les impayés TVA, et enfin, voilà. à partir de là, à l'occasion des entretiens du jeudi, ils peuvent rencontrer donc, de manière donc, totalement confidentielle et gratuite les experts qui interviennent, à savoir on mobilise donc un trio d'experts, un expert comptable bien sûr, un avocat et un ancien juge du tribunal de commerce. Donc l'intérêt, c'est qu'à travers ces regards croisés d'expertise complémentaire, vraiment le chef d'entreprise a du coup des conseils à 360 sur ces problématiques et qui sont souvent donc des problématiques soit de trésorerie bien sûr, mais aussi des problématiques parfois donc juridiques avec des problèmes de baux commerciaux, des problématiques de contrat client, d'impayés, des problématiques aussi parce que en fonction ils ne sont pas tous au même niveau d'avancée de difficultés. Mais il y a aussi des problématiques tout simplement de modèle économique, hein, où ils s'enferment sur un axe stratégique qui n'est pas le bon. Et donc là, l'expert comptable joue aussi son rôle de conseil sur la redéfinition des propositions à faire sur le modèle économique. Donc voilà, c'est vraiment un endroit où le chef d'entreprise se sent sécurisé par une écoute bienveillante et avec en même temps le bénéfice d'avoir un seul lieu sur une durée de 45 minutes, une expertise croisée d'un trio essentiel. Pour eux, c'est vraiment une opportunité, c'est comme ça qu'on leur présente. C'est dire, venez au CIP, vous avez là aujourd'hui des problèmes, l'essentiel c'est que vous puissiez en parler, que vous puissiez en faire part, et surtout qu'on puisse vous aider à trouver des solutions concrètes. Parce que bien souvent, ils ne connaissent absolument pas les procédures. Et pour la relation avec l'expert comptable, ce que l'on sait souvent, c'est qu'au-delà du fait que, bien sûr, souvent, ils ont cessé de payer leur expert comptable, ils ont aussi, et très souvent, honte. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils se disent que s'ils vont voir l'expert comptable, ils ne vont pas être en capacité de comprendre aussi, parfois, ce que leur dit un expert comptable. Donc, du coup, c'est vrai que le CIP, ça peut être aussi une étape où ils
d'autres posent leurs questions, voilà, parce qu'ils ont forcément un sentiment de honte qui les gagne, parce que l'aspect psychologique, comme vous l'indiquez, est vraiment essentiel. Et nous aussi, au titre du CIP, on travaille en collaboration étroite avec Amaroc, donc avec Olivier Torres et les psychologues qui sont, Madame Anselme, qui est la psychologue référente. Voilà. Qui assure l'écoute téléphonique et l'accompagnement des dirigeants, mais également des associations APESA, que vous connaissez sûrement, parce qu'au moment du Covid, il y avait une possibilité de les contacter gratuitement et via le numéro vert national, et qui sont rattachés d'ailleurs aux tribunaux de commerce.
Pour un chef d'entreprise en difficulté psychologique, s'il passe par le tribunal, il a droit à 10 séances d'accompagnement gratuites.
C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y avait plusieurs dispositifs aussi spécifiques Covid, mais là c'est toujours le cas, oui.
Les entreprises à part, il est arrivé de sauver la vie d'un chef d'entreprise qui en fait a eu mon téléphone parce que j'étais référencé chez APESA, et au début je croyais que c'était du blague, j'étais en train de boire l'apéro avec des amis un samedi midi, et c'est une histoire vraie, hein. Ce gars-là pensait que j'étais de l'association APESA, et c'était un mec qui allait se suicider. J'ai passé 2 heures au téléphone avec lui. Bon, depuis, on a enlevé mon numéro, mais l'association a pris le relais. Il y a des vrais psychologues qui sont intervenus. Enfin, moi, je ne l'étais pas. Au début, je croyais que c'était une connerie. Je crois qu'on disait, ouais, c'était au tout début de la création de l'association.
Tu l'as invité à l'apéro, ça ?
Pardon ?
Tu l'as invité à l'apéro, ça, l'association ?
Enfin, oui, il n'avait pas envie de boire l'apéro. Au début, je croyais que c'était un sketch. Je n'y croyais pas. Hein. Ça a duré.
J'ai une question, s'il vous plaît, madame.
Oui.
Sur les 10 ans que vous avez, est-ce que vous avez une idée statistique, un ordre de grandeur, pas juste, du nombre de gens qui sont venus au CIP et qui n'étaient pas en état de station de paiement ?
Ah non, enfin, ça c'est trop...
C'est trop compliqué.
Trop compliqué, en
moi,
fait.
Moi, sans avoir jamais assisté, oui. J'ai une légère idée, moi. Parce que les gens qui viennent, quand ils viennent vous voir, qui n'ont pas payé l'URSSAF, qui n'ont pas payé la TVA...
Ça va être proche de zéro.
Qu'ils n'ont pas payé... Non, mais zéro. Ce qui veut dire que quand tu arrives au CIP, institution, toute la partie prévention, dans les mandats ad hoc et tout ça, si je suis à l'état de station de paiement, je n'ai pas le droit, donc on marche.
Alors, c'est vrai que
ciseau, là, en fait. Ouais,
j'ai cité cet exemple, mais bien sûr qu'on n'a pas que les chefs d'entreprise qui ont ces problématiques-là. Comme je disais, il y a aussi des problématiques de perte de marché, perte de clients, de modèle économique qui n'est pas bon, et où le chef d'entreprise s'en fait sur des axes qui sont pas bons. Après, je vois que vous souriez, vous étiez au dernier rendez-vous CIP.
Le premier sur quel dossier déjà pas ça vous dérange.
Une grosse surprise. Alors, il y a aussi peut-être le fait de plus on parlera du CIP, plus on en parlera et plus on aura des entreprises qui le saisiront en amont. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, à Toulouse, dernièrement, on a sur une réunion du CIP où j'étais présent. On a vu une entreprise venir avec son expert comptable. Je pense que ça n'était jamais arrivé. Elle est venue au CIP avec l'expert comptable. Donc on était loin d'être en station de paiement. L'expert comptable, on a discuté un petit peu avec lui. Il m'a dit, je suis venu pour qu'il entende d'une autre personne. Parce que je n'arrivais pas à lui faire affaire. Je lui disais, il l'entendait, mais que ça vienne de quelqu'un d'autre, ça permet aussi d'avoir un impact plus fort. Un juge honoraire, un avocat, en plus, qui vont dans le même sens que l'expert comptable, eh bien, ça finit de convaincre l'entreprise. Et on était loin d'être en station de paiement.
Alors, je voudrais juste faire un rappel. Moi, ce que j'ai regretté dans cette... Autant c'est très intéressant, comme je suis demain de commission, ce qui me gêne, c'est que les dossiers, en fait, les collaborateurs, mes confrères, en fait, nos confrères, finalement, c'est des crétins. Voilà, ils sont nuls, on les a jamais avertis, ils tombent des nuls, mais comment, on me l'a jamais dit. Et ça, je trouve que c'est... Je sais pas comment...
Bah, disons que c'est un système de protection qu'ils activent, je pense, pour dire que c'est pas eux, c'est un déni, voilà.
Ça, l'expert comptable...
C'est bizarre,
hein. Je vous invite à voir l'expert comptable. Vous êtes tous des vrais.
Mais franchement, je me dis, mais c'est pas possible.
Vous savez qu'il faut toujours trouver un coupable.
Mais je le sais.
Mais je voulais rebondir juste sur une chose, c'est que, bon, je crois qu'il ne faut pas chercher
ouais,
faut pas chercher quelqu'un à pendre, c'est bon, il n'y a vraiment pas beaucoup d'intérêt, ce n'est pas la mission qu'on veut aller chercher. La seule chose, bon, ce que je veux dire, c'est que moi, en tous les cas, depuis 14 ans, je suis au tribunal de commerce, ça fait 14 ans que j'entends parler de ça de la même façon, et que tous les ans, on reproduit la même chose. Je dis continuons. Mais on voit que les choses se dégradent et ça n'améliore pas. Je dis, on a peut-être une chance d'essayer d'aborder le sujet différemment et d'essayer. Alors, c'est difficile, mais je vous parle tout à l'heure. Les marnes, mon contentieux, 0 pendant 4 ans, 2 en 4 mois. On essaye, on avance un petit peu. Si on n'en sauve que 4, ben on en aura sauvé 4. Si on en sauve 10, on en aura sauvé 10. Mais je pense qu'il faut juste se dire, on va faire différemment. Et on utilise des outils. Le passé appartient au passé. Pour moi, c'est l'avenir, c'est devant. Et il faut qu'on avance ensemble là-dessus. C'est ça qui est important. Et après, on en tirera les conclusions. Mais si on ne change pas notre braquet ou l'angle d'attaque, on fera que les constats qu'on fait depuis des années. Tu étais avec moi, on a toujours parlé de cette prévention. Et dit, bon, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait que de dire la même chose ou est-ce qu'on fait différemment? Moi, c'est juste ça que je voudrais dire. Et ça, c'est nous qui avons la décision. C'est nous qui avons les moyens de le faire ou de ne pas le faire. Quand je dis nous, moi, je me mets avec la CCI, vous, les organisations patronales, syndicales, c'est tout le monde, tout ce monde économique, c'est lui qui a la clé.
Je vais revenir à ce qui a été dit, je passe quand même que une quatrième intervenante pour moi. C'est la CU à Maroc, je passe, c'est indispensable parce qu'en fait, le ressenti que j'ai eu, c'est qu'en fait, on voit des gens qui sont vraiment en grosse détresse psychologique. Et en gros, nous, techniciens, je ne suis pas sûr qu'on n'est pas là pour apporter vraiment un élément. Et je pense qu'il manque ce côté social, alors, humain, psy, je veux dire, qui va aussi, à mon avis, dédramatiser une situation pour que les gens soient plus en attente. Parce que finalement, on fait quoi? On fait une consultation, on fait. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça qu'ils attendent.
Alors on les oriente, hein. De toute façon ils sont systématiquement vers ce qu'on présente.
Mais si on montre qu'on est tous les partenaires, oui. Le lot.
Mais après le problème de Amaroc et de la PESA, ils ne viendront pas dans un panel d'experts, dans le sens où c'est quand même des données qui sont très confidentielles, parce que pour avoir donc souvent accompagné des entreprises, des dirigeants en grande difficulté psychologique, quand on rentre et que ça se passe avec nous, parce qu'ils sont en tiers de confiance, on est le conseiller à qui livrent finalement leurs problèmes, c'est tout de suite on va sur des problématiques qui sont très personnelles. Et donc,
on est
pour le coup,
pour faire en gros une psychanalyse pendant les 46
minutes. Ben, pour ça,
mais si déjà la personne voit en face, en gros, la personne qui aura contact pour la suite des événements en disant oui, cette personne, je l'ai vue, elle était en face, je l'ai vue, j'avais un expert, il y avait un avocat. Et j'ai vu aussi quelqu'un là-dessus de psychologique. Pour eux, je pense que c'est plus facile après de dire je l'appelle, je rentre en contact, une sorte de confiance qui peut se créer, plutôt que de séparer en disant oui, il y a un peu la cellule à PESA, en fait, de 0,8, je ne sais pas quoi. En fait, c'est impersonnel complet. Quoi.
Après, nous, on reboucle.
Hein.
C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait des orientations à Maroc, on rappelle à Maroc pour savoir si on a eu la personne. On fait quand même un suivi aussi de ça parce que. Parfois, comme l'indiquait M. Auffort, on a des situations où on se demande si on ne fait pas une action, il ne va pas y avoir un gros problème. Après, bon, ça serait super de pouvoir les associer, mais tout ça, c'est une problématique de moyens. Parce que après, je veux dire, à Maroc, par exemple, il y a une psychologue sur tout le département, en tout cas pour l'Hérault. Je ne pense pas qu'elle pourrait être là de manière mensuelle sur toute la durée de l'après-midi. Quoi. Après, on peut leur poser la question. Je pense qu'après, on est sur des problématiques de ressources.
Puis bon, l'essence du CIP, c'est de porter l'information. Alors, on n'est pas là pour régler les problèmes. Hein. Mmh. Il y a d'autres cellules pour ça. On avait identifié avec le préfet de région d'Occitanie 90 dispositifs différents qui traitent de la prévention des difficultés d'entreprise. C'est illisible pour une entreprise de savoir où aller. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, avec le CIP, on a une porte d'entrée sur l'information, et ensuite à nous, au CIP aussi, de les orienter vers les acteurs de la procédure, administrateurs, cellules de prévention du tribunal, vers les outils à Maroc en expliquant ce que c'est à Maroc. Et moi, j'ai eu déjà l'occasion de, aussi, dans un entretien, de prescrire, entre guillemets, d'indiquer fortement et en insistant, puisqu'on a eu une jeune entreprise qui était vraiment au bout du rouleau, et on a passé beaucoup de temps, effectivement, sur ces sujets-là. Et effectivement, elle a saisi l'opportunité. Voilà, c'est plus notre rôle. Mais c'est un peu compliqué de faire intervenir un institut comme à Maroc au sein du CIP.
Après, c'est vrai que sur Béziers, le CIP, ça démarre. L'identification des entreprises, c'est aussi un contexte. Hein. Aujourd'hui, les entreprises que vous rencontrez, elles sont beaucoup issues sur le Mitterrand du CHR. Du commerce de proximité, et on est sur de la TPE, voilà, vraiment.
Mais c'est notre clientèle aussi, la TPE.
C'est ça, hein,
c'est
ça.
De toute manière, c'est les mêmes que l'on a et en cabinet.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, en ce moment, il y a quand même aussi, voilà, de la détresse plus activée que. voilà. Après, on a, sur Montpellier en tout cas, sur le recul des 10 ans que l'on a, on a toute typologie d'entreprise. Hein. On peut avoir des entreprises parfois, même de 20 salariés, le chef d'entreprise vient et parce que justement, il se dit que soit il en a parlé avec son expert comptable ou ses conseils, soit pas, mais c'est parce que c'est aussi par le biais des réseaux de chefs d'entreprise qui a, voilà, il connaît quelqu'un qui est passé par le CIP. Donc il a eu vraiment ce premier temps d'écoute et d'orientation, et c'est aussi important pour eux, avant de rentrer dans le dur et d'aller soit au tribunal, soit passer par les mandataires ou les administrateurs, d'avoir justement ce SAS. En fait, le CIP, c'est une plateforme d'écoute et de conseil, c'est vraiment un SAS. Et c'est une étape. Et souvent, c'est avant d'aller au tribunal aussi, parce qu'ils ont peur d'aller au tribunal. Ça reste prégnant. Après, on va voir comment ça évolue. Mais en tout cas, historiquement, c'est le rôle du CIP, c'est vraiment d'être là en tiers de confiance et en expertise croisée. Et de faire connaître les outils de la prévention.
Ouais, je pense qu'il sera aussi intéressant, c'est peut-être au bout de, d'un semestre, de faire un petit bilan avec tous ceux qui ont participé aux entretiens, que ce soit les experts comptables, les avocats, les juges dédiés, pour faire un petit bilan de votre premier avis, ce que ça a donné, où c'est allé. C'est important que les personnes qui se sont investies aussi puissent mesurer ce que ça génère derrière. Parce que ça, c'est des statistiques qu'on peut facilement faire et organiser un petit tour de table.
Bien sûr.
Je pense que ça peut être bien aussi pour les faire.
Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit aussi, sachez qu'au début du CIP, en complément donc de l'animation de ces entretiens du jeudi, on réunit aussi deux fois par an, et d'ailleurs la chambre d'expert comptable est associée, un comité de veille et d'orientation où on retrouve l'ensemble donc, des acteurs de la prévention. Donc il y a l'URSSAF, il y a les impôts, il y a la médiation du crédit, les experts comptables, les avocats. Il y a également les syndicats professionnels, hein, le MEDEF, la CPME, l'UNIH par exemple. Donc, l'idée, c'est de faire un tour de table, de leur présenter effectivement une synthèse des entretiens du jeudi de manière semestrielle, dire on a reçu tant d'entreprises, voici la typologie, les montants de chiffre d'affaires, les difficultés rencontrées. Et c'est aussi l'occasion de faire un petit peu un tour de la conjoncture en lien avec les difficultés et la prévention. Donc, nous aussi, ce qu'il y a de bien par rapport au CIP, c'est qu'on sait qu'on peut activer tous les bons contacts aussi pour le chef d'entreprise qui vient nous voir. C'est que derrière, on fait la mise en relation aussi, on va dire, privilégiée.
Il y a quand même une frustration au CIP, c'est qu'on n'a pas de clause de revoyure. Et donc, on ne sait jamais, au final, qu'est-ce qu'il en est devenu. Ça, c'est vrai que c'est un peu frustrant.
C'est ça, et c'est vrai que c'est très dur de faire du suivi derrière. Parce qu'on ne peut pas finalement faire de suivi dans le sens où les entreprises que l'on reçoit, et vous le savez, vous ne recevez pas effectivement des experts qui participent, ne reçoivent pas des éléments en amont. Hein, vous participez à un comité d'engagement type initiative ou autre, vous recevez toujours les dossiers en amont. Comme c'est vraiment l'objectif, c'est que chacun ait un regard bienveillant. Et d'orientation, on va dire, sur
spontané et sur le moment avec une étude collective du cas qui est présenté, on vous présente les éléments pour le jour J. Et après, voilà. Et donc, après, dans nos stats, tout ça est confidentiel. On ne fait jamais ressortir après le nom de l'entreprise. Mais donc, à suivre, et effectivement, on va, avec Marina, veiller à avoir un suivi. Eric, bien sûr, et également le barreau de Béziers, qui est aussi actif, voir comment on peut organiser au mieux ce suivi entre nous. Et donc, vous allez avoir le pouvoir prendre. Oui. Là, effectivement, c'est un premier outil, qui est notre premier flyer. C'est une tentative, c'est pas la finale. Mais donc, comme l'a indiqué Erin Jervis, on est en train de travailler aux outils de communication pour qu'on puisse avoir un affichage un petit peu plus important et en tout cas une facilité d'accès pour les chefs d'entreprise sur nos outils.
Merci beaucoup.
Pour le dernier, moi, juste un mot de conclusion, après le président conclura. Moi, ce que je veux dire, c'est d'abord, n'hésitez pas à vous renseigner et aller vers ces procédures de conciliation et de mandat ad hoc. C'est des procédures qui ne sont pas assez utilisées et elles réussissent très très souvent. Donc, je pense qu'il faut vraiment les apprivoiser et ne pas hésiter à venir devant le tribunal pour les mettre en œuvre pour certains clients. La deuxième chose, c'est de démystifier le tribunal auprès de vos clients. Quatre choses, je veux dire. La troisième, c'est penser à la cellule APESA à Maroc. On a quand même des chefs d'entreprise qui sont en grande difficulté. Moi, il n'y a pas une audience où je ne dis pas à un chef d'entreprise en face de moi de monter au greffe du tribunal de commerce pour récupérer la fiche APESA et de prendre contact auprès de l'association. Ça a aidé beaucoup, beaucoup de chefs d'entreprise. Donc pensez-y, ça existe. Hein. C'est les chefs d'entreprise qui sont en difficulté, c'est gratuit pour eux. C'est, il y a 10 séances d'accompagnement qui sont gratuites. Et la dernière, et je vais faire un peu de recrutement, c'est le tribunal de commerce de Béziers. Il va avoir 3 nouveaux juges à nommer pour l'année prochaine. En principe, 3, hein, voire 4 peut-être. Donc, si parmi vous, certains sont intéressés, ou parmi vos clients, alors il ne faut pas qu'on soit 50 experts comptables, mais là, je crois qu'on est 3. Bon, si on était 4 sur 22 ou 23, je ne pense pas que notre président s'y opposerait. Donc, ça peut, voilà, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Mais donc, si certains d'entre vous étaient intéressés, pensez-y, c'est quand même une expérience assez exceptionnelle, qui est enrichissante intellectuellement, humainement, et puis professionnellement, pour l'exercice de notre métier. C'est vraiment un accompagnement, on a une vision de l'accompagnement de nos clients qui est complètement différente. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous en faire part, et si vous présentez des clients qui pourraient l'être, n'hésitez pas aussi à les orienter vers nous. Voilà.
Bref, on a bien assez discuté là-dessus. Pour terminer sur le recrutement, il faut simplement faire suivre, alors vous pouvez le faire suivre, Marc, c'est une petite lettre et un CV. On a une cellule de recrutement, Marc en fait partie avec moi, on est 4, les 4 anciens du tribunal, où on reçoit les postulants pour essayer d'apprécier, tout est ouvert pour eux pour pouvoir s'épanouir au sein du tribunal, puisqu'il y a quand même de la rédaction, il y a un peu de synthèse, il y a des formations, il y a plein de choses, mais je peux dire que c'est une belle expérience, en tous les cas, humaine surtout, et professionnelle qui en découle. Donc vous êtes les bienvenus dessus. Je voulais remercier aussi ceux qui se sont investis et qui ont spontanément, qui sont venus au niveau du CIP chez nous, parce que c'était sans ça, ça ne marche pas. Le barreau fait partie, bien évidemment, mais là, c'est vous qui êtes concernés. J'espère qu'on pourra vous donner, j'espère peut-être au premier semestre, quelques chiffres sur cette activité, et que j'espère aussi pouvoir avoir la lecture au niveau des statistiques du tribunal, une augmentation des procédures de prévention, au même titre que je l'ai constaté pour les procédures de marbre. Ça voudra dire qu'on en prend le chemin, et que on va continuer d'avancer et de le faire. Je n'ai pas la folie des grandeurs. Pour moi, ce qui est important dans toute chose qu'on met en place, c'est d'abord de s'assurer que le dispositif est bien en place et fonctionne. Et donc, je ne cherche pas une grosse volumétrie. Enfin, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est déjà, sur cette première année, c'est de le faire fonctionner et de voir s'il y a des réglages à faire et qu'on les fasse. Et que petit à petit, au fil du temps, en continuant cet échange, eh bien, on monte en puissance. Voilà, c'est, j'allais dire, tout le mal qu'on peut souhaiter. Mais voilà, sans vous, on ne pourra pas le faire. Donc c'est essentiel que vous soyez à nos côtés pour qu'on puisse traiter tout cela. Merci en tous les cas de m'avoir reçu, écouté et encore une fois une très belle année pour vous et vos proches et la santé, parce que sans elle on ne fera rien, c'est le plus important. Merci.
Peut-être pour le monde pour l'ordre, avec un micro qui marche, on a la chance d'avoir avec nous le président du conseil régional de l'ordre, Pascal Castanet. Donc Pascal, tu as le micro si tu veux t'exprimer.
Bonjour à tous, meilleurs voeux bien sûr à tous et surtout la santé et la santé à nos entreprises aussi qui, on le voit, commencent à avoir quelques difficultés depuis quelques temps. Je crois que beaucoup de choses ont été dites, sachez que l'ordre est très impliqué là-dedans. On a créé dès janvier 2023 et Eric a pris ça à bras-le-corps puisque c'est un sujet qui le passionne, donc il a pris ça à bras-le-corps, on a créé la commission entreprises en difficulté. Et je vais répéter ce qu'il a dit, on a la chance d'avoir ouvert les commissions à des bénévoles. Donc n'hésitez pas, les experts comptables qui veulent venir avec Eric travailler, brainstormer sur ce qu'on peut mettre en place pour aider nos chefs d'entreprise. Est-ce que l'ordre va pouvoir développer aussi, vous l'avez vu. On est en train de créer des parcours de formation qui, je crois, sera assez novateur puisqu'on va aller démystifier les tribunaux de commerce. Et si vous avez d'autres idées, il ne faut pas hésiter à nous les faire remonter. En tout cas, merci à vous, merci à tous ceux qui s'impliquent aussi dans ce dispositif. Parce que le bénévolat, vous êtes bénévole et beaucoup d'experts comptables sont également bénévoles. Et je crois qu'on a besoin de toutes les forces pour essayer de préserver l'économie du secteur et de l'Occident. Merci à tous. Et il y a un petit, on me fait signe qu'il y a un petit cocktail comme d'habitude où on va pouvoir tous discuter ensemble sur ce qu'on peut mettre en place et sur un peu tout. Merci à vous.